Puss på då.
88,1.
Campus Bordeaux.
Il est 13h05, on est en direct et il y a Pierre qui nous a rejoint en studio, on le disait avant la musique, et il y a Nicolas Loubert aussi. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Alors Pierre, on te retrouve dans le cadre d'un nouvel épisode de Partager l'architecture, écriture croisée, et tu vas nous proposer un nouvel entretien aujourd'hui de Kent Fitzsimmons.
Exactement. Bonjour tout le monde, Ken Fitzsimmons, ouais.
Ken Fitzsimmons, pardon.
Et il est chercheur à l'ENSAB de Bordeaux, donc à l'école d'architecture de Bordeaux. Il est chercheur et architecte, il est canadien de base, canadien anglophone. Et il est vraiment très intéressant, il a un rapport à l'écrit qui était vraiment très intéressant pour cette émission. Et l'entretien s'est tellement bien déroulé que j'ai voulu le retranscrire entièrement, enfin le rediffuser entièrement. Et donc ce sera aussi le prochain épisode, ce sera la suite avec lui. Mais aujourd'hui, on voit toute la première partie, tout ce qui est plus son rapport en tant que donc jeune, en tant que lycéen et étudiant, son rapport à l'écriture, mais aussi en tant qu'architecte, et après en tant qu'enseignant. Et la prochaine fois, on verra plus en tant qu'enseignant de mémoire, donc qui est une des matières, et on verra après la suite. Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler dès maintenant. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce fameux Ken Fitzsimmons, c'est qu'il a un rapport entre tout ce qui est théorique, il est presque philosophe en soi, il fait appel à de très nombreuses références, et tout ce qui est aussi pratique, puisqu'il a aussi fait de l'architecture, il a aussi construit. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, cet aller-retour entre théorie et pratique. Et avant de préparer cette émission, je réfléchissais à ce rapport théorique-pratique en architecture. Et en effet, à Bordeaux, on a un exemple d'un quartier dans Bordeaux qui est vraiment très lié entre l'application d'une théorie architecturale et d'une théorie même d'une utopie un peu, qui est tout simplement le quartier Mériadec. Et j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu avant, puisque très souvent il fait partie dans Bordeaux et on me dit ah mais toi tu es étudiant en architecture, mais forcément qu'est-ce que tu penses de Mériadec? Et alors juste je vais faire un mini topo historique avant et après je vais vous poser quelques petites questions sur ce quartier. Donc Mériadec c'est un quartier qui a été loti, donc qui a été construit à la fin du 18e siècle par un archevêque. Donc ça, c'était des terres qui appartenaient à l'archevêché de Bordeaux, donc qui s'appelait Ferdinand Maximilien de Mériadec, d'où le nom de ce quartier-là. Donc c'est juste à côté de la cathédrale Péberlan et de l'hôtel Rouen, qui était l'ancien chef de l'archevêché. Donc l'hôtel de Rouen, maintenant, c'est la mairie de Bordeaux. Et il se trouve que ce quartier, qui a donc été construit au XVIIIe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu peu à peu assez malfamé, on va dire. Il était plutôt Nicolas confirme.
Enfin, j'étais pas là. Hein, oui, à pas encore, presque.
Ah bon ? Dans les années 1950 ? Et pourtant, il était assez malfamé, donc Jacques Chambord-Dalmas a décidé de le détruire pour faire ce quartier-là. Et ce quartier-là, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que déjà, vous avez pu vous y balader ? Donc, on a Mélissa et Nicolas.
Alors oui, je pense que tout bon bordelais et bordelaise a déjà foulé les terres de Mériadec. Et c'est vrai que souvent, ça fait parler, même qu'on passe tout simplement en tram devant, puisqu'il y a le tram aussi qui passe à Mériadec. Et c'est vrai que c'est une architecture un peu étrange. En tout cas, ça a le mérite d'attirer l'œil. Je pense que c'est assez atypique pour marquer les esprits. Après, c'est vrai que moi, d'un point de vue esthétique, alors je trouve pas ça si moche que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dithyrambiques en disant que ce sont les bâtiments les plus atroces esthétiquement parlant.
Oui.
Mais alors, je trouve pas ça si moche que ça. Je trouve juste ça très très bizarre. Enfin, c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de la personne qui a conçu ça pour proposer une architecture aussi étrange.
Tout à fait. Donc ce caractère étrange, et toi Nicolas, qu'est-ce que tu en penses?
Moi je dirais que c'est un peu une parenthèse de futur. Mériadec, c'est-à-dire que quand ça a été construit, c'était ultra futuriste. On n'avait aucun quartier qui ressemblait à ça à Bordeaux. On se projetait déjà au siècle d'après. Et en fait, on se rend compte que même au siècle d'après, il n'y a pas des trucs encore plus futuristes que Mériadec. Donc c'est ça que j'aime bien, moi. C'est-à-dire que tu es un peu hors du temps. Quand tu vas te promener à Mériadec, déjà, ce n'est pas un quartier résidentiel. C'est beaucoup de bureaux, le centre commercial au champ Mériadec, et puis des bâtiments officiels aussi comme le conseil général, etc., l'hôtel de région et tout. Et je trouve que ça va bien, Mériadec va bien avec tous ces ensembles de bureaux, en fait. C'est un peu impersonnel, Mériadec. Donc je trouve que ça va bien avec des bureaux et ce qu'on peut y retrouver. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on s'y perd très facilement. C'est-à-dire que pour se repérer à Mériadec, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on a pris l'habitude d'y flâner un petit peu, mais je trouve qu'il y a un côté vraiment sympathique. Et c'est super pour les tournages de films.
Oui.
C'est vraiment bien. On avait fait un film avec Mélissa, d'ailleurs, pour les ateliers de la fac. Et ça s'y prête vraiment. Parce qu'en fait, comme ce que je disais, il y a un côté un petit peu hors du temps. Eh bien, les gens qui regardent le film après, ils se disent, mais où c'est que tu as fait ça? Quand ils ne connaissent pas Mériadec, où c'est que tu as filmé? Et moi, j'ai filmé plein de trucs, même avant ce film qu'on a fait là. J'ai filmé plein de trucs à Mériadec. Je trouve que ça s'y prête bien. Ça peut faire penser presque un peu à Matrix.
Oui,
ou
c'est
à
vrai.
Des films
oui,
comme
oui.
ça.
Donc, très futuriste, ouais, du coup.
Moi, j'aime bien Mériadec et j'ose le dire.
C'est bien. Voilà. Ah, mais c'est super intéressant. Donc, je suis très content d'avoir un avis plus. Parce que très souvent, quand on pose la question à quelqu'un lambda, bah, alors il va nous dire, mais c'est affreux, c'est juste moche. Et il y a très peu d'arguments derrière, alors que là, le côté très futuriste et le fait même que tu aimes, en fait.
J'aime bien la science-fiction, moi.
Okay.
Et ça me parle,
donc,
Mériadec.
Ça marche. Donc ça marche bien, architecturalement, ouais. Ça marche bien. Donc déjà, juste ce côté étrange, Mélissa, t'en as beaucoup parlé. Effectivement, dans le Bordeaux, ville de pierre, bah, d'avoir ce complexe-là, ce quartier-là, c'est d'abord très très surprenant. Et Mériadec fait quand même partie du périmètre UNESCO, puisqu'en fait, ça fait UNESCO a voulu passer par Mériadec pour bien préciser l'intérêt architectural qu'avait ce quartier. Juste, je voulais juste le préciser. Donc cette petite poche un peu assez bizarre. Et effectivement, ce quartier bizarre, eh bien, c'est l'architecture moderne la plus pure. En fait, on a vraiment... Donc aujourd'hui, quand on vous dit architecture moderne, pensez un petit peu à Mériadec. Et en fait, c'est une architecture et surtout un urbanisme. C'est surtout ça, parce que l'architecture en soi, les tours, elles sont notables. Enfin, on y pense, on va en parler après. Mais c'est surtout l'urbain, en fait. C'est plus le quartier en lui-même, qui est en fait de l'urbanisme sur dalle, qui est une partie du mouvement moderne. Et l'urbanisme sur dalle, il vient d'une théorie, comme on disait, avec Ken Fitzsimon, qui lui prend les théories, c'est le fait de sectoriser. C'est-à-dire que l'homme, donc l'homme avec un grand H, à l'époque, Le Corbusier n'était pas très féministe, il utilisait bien l'homme, et même avec un petit H, ça c'est un petit... je rajoute quelque chose dans Le Corbusier. Eh bien, il considérait qu'il avait quatre fonctions. L'une, c'était celle de dormir, donc on va dormir par exemple dans les tours, quand c'est de l'habitation, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'habitation. Ensuite, on va circuler le matin. Donc ça, c'est au sol. Toute la circulation automobile, tout est en bas dans Mériadec. On ne va pas avoir de voiture au niveau de la dalle. Je vais en parler juste après. Ensuite, on va au travail. Donc là, on repart en haut au niveau des tours. Et ensuite, après, on va venir se détendre sur cette fameuse dalle, cette forme d'esplanade qui est à 6 mètres. Donc, toutes les choses fonctionnelles et pas très jolies, donc les voitures, les gros commerces, donc le Auchan de Mériadec, tout ça est sous cette dalle à moins de 6 mètres, à 6 mètres en dessous, enfin en dessous de cette dalle, quoi, entre 0 et 6 mètres de haut. Et donc, en mettant cette forme de sectorisation, on est venu mettre en pratique ce concept-là détaillé par les modernes. Et donc, ce qui vient à créer une dalle. Et c'est là où cette dalle, on peut venir en partie la critiquer. Certains vont dire que c'est assez, on va dire, qualitatif, puisqu'on a beaucoup d'espace public. L'espace public est très large, mais il est même presque un peu trop large au final. Puisqu'au final, c'est un espace public que l'on ne peut pas venir verdir. Il y a très peu d'arbres, sauf à, je crois, à l'esplanade...
Oui, il y a un peu de verdure quand même,
voilà.
Là où il y a la fontaine.
C'est ça. Donc là, je crois que c'est pas bâti en dessous. Je pense que c'est pour ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais après, de manière générale, c'est un quartier qui est très, 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 très minéral. Et après, juste d'un point de vue fonctionnel, eh bien, de venir tout monter à 6 mètres, eh bien, c'est quand même assez compliqué parce que, ben, on ne peut pas tous accéder à 6 mètres. Et puis ensuite, après, ben, le tram, il est en bas. Donc après, si on veut accéder aux commerces qui sont pour certains ou aux bureaux, ils sont en haut. Donc, il faut revenir monter à 6 mètres. Donc, il y a quand même une certaine complexité dans cet urbanisme-là. Et donc, d'un point de vue architectural, oui, c'est vrai. C'est un peu ce côté futuriste, science-fiction, tu l'as dit, où on a un côté très, très atypique. C'est une parenthèse de futur, tu as dit, j'ai noté ça. On est un peu hors du temps. Et ça, c'est vrai quand même que esthétiquement, c'est un quartier qui pose beaucoup de questions, qui est moderne et voire même brutaliste. C'est-à-dire que l'on vient prendre un motif, vous regarderez dans les bâtiments à nouveau, on a un motif, un type de fenêtre, et bien on va l'avoir partout. Un type de balcon, on va l'avoir partout, sur toute la barre. Et c'est ça qui rend un peu ce quartier assez intéressant. Et ce quartier donc moderne, relié d'une dalle qui vient relier les différentes tours entre elles. Et ensuite après, on a, de manière générale, oui, tu disais Nicolas, qu'il y avait quand même pas de, il y avait très peu de d'habitations, et c'est ce qui fait aussi un petit peu qu'il est impersonnel au final, tu l'as dit Nicolas, ce quartier, c'est-à-dire qu'en fait on a l'utilisation de ce quartier, elle se fait que pendant les horaires de travail et très peu pendant le week-end puisqu'il y a assez peu d'habitations. Et je vais aussi vous sortir, enfin vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez entre le, on a Jimmy, Jim, qui nous a rejoint ici sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous diriez que c'est un quartier très très où il y a beaucoup de, donc il n'y a pas forcément d'habitation, mais si tous les bureaux seraient habités, est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup de monde ou pas? Est-ce que ça loge beaucoup de monde, ce genre de quartier?
Non, parce qu'il y a beaucoup d'espaces libres, hein, ouais, quand même. Il y a... C'est parsemé, quoi. Mm-hmm. Après, ça monte assez haut, quand même, hein, les certains bâtiments.
C'est ça.
Ouais.
C'est quoi, beaucoup?
Beaucoup. Alors, c'est exactement ça. Exactement bien. Ma question était un peu bizarre, effectivement. Mais c'est qu'en fait, l'urbanisme moderne, donc les, avec les tours et les bars, qui est un peu le mauvais côté de l'urbanisme moderne, on va dire, et bien, au final, il y a très... Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui habite dedans. C'est-à-dire que le tissu du centre historique de Bordeaux, eh bien, il y a beaucoup de gens qui habitent par rapport au kilomètre carré, on compte. Il y a plus de, je crois, je me le suis noté là, je vais juste tourner, il y a à peu près jusqu'à 400 personnes par kilomètre carré habitant, alors que dans le tissu des grands ensembles, et donc en partie de Mériadec, même si ce n'est pas vraiment un grand ensemble, on est à peine à 100. Donc on a vraiment une grosse différence, puisqu'au final, il y a beaucoup d'espace public. Ce n'est pas parce qu'on monte beaucoup qu'on va avoir beaucoup de monde qui habite le quartier. Ce qui fait aussi que c'est assez vide et un peu ce côté.
Oui, mais il y a ce côté calme qui est sympa aussi à Mériadec. Tu n'es pas dans la foule, comme dans certaines rues de Bordeaux. Je ne citerai pas la rue la plus passante de Bordeaux, mais à Mériadec, on peut y rester pour passer du temps tranquille.
Et pour filmer
des
films.
On est vraiment tranquille à Mériadec, je trouve.
C'est vrai, ça fait un peu à la fois une forme de poumon, alors pas du tout vert, mais au moins un poumon de tranquillité, un poumon sonore, on peut
dire.
C'est
pas mal déjà.
C'est énorme même, c'est très important. Et donc cette différence entre théorie et pratique et cette complémentarité, eh bien Can't Fit Simons, il nous en parle. Et donc je vous propose d'écouter Can't Fit Simons. Donc je suis avec Can't Fit Simons, qui est architecte et maître de conférence à l'ENSAP de Bordeaux. Donc vous êtes enseignant en TPCAU, qui est la matière principale de l'enseignement de l'architecture et du séminaire dont vous êtes membre. Et vous êtes aussi, d'un autre côté, chercheur et ancien directeur du laboratoire Pavé. Donc l'entretien, on va suivre votre parcours de vie. Donc d'abord, vous êtes canadien et vous avez étudié à l'Université McGill de Montréal quand vous étiez au Canada. Donc avant même les études d'architecture, au lycée par exemple, ou avant, est-ce que vous étiez un enfant qui écrivait, ou un élève plutôt, et qui lisait? Est-ce que vous aviez un intérêt pour la lecture et l'écriture dès l'adolescence, voire l'enfance?
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et bonjour aux auditeurs. Je suis né à Montréal et grandi dans un milieu, on va dire, dans une province bilingue, même si j'étais dans ce qu'on appelle la communauté anglophone et ne parlais pas couramment le français à la maison du tout. Bon. Mon enfance, alors je ne dirais pas que j'étais... je lisais, mais pas forcément des choses que je revendiquerais aujourd'hui. Je ne lisais pas forcément... Des romans qu'on dirait des classiques, sauf des choses comme Le Seigneur des Anneaux. Donc oui, je lisais, mais je ne dirais pas que j'étais éveillé à la question de la littérature ou de la philosophie. Il faut savoir, par exemple, qu'au Canada, ou en tout cas dans les lycées où j'ai fait mes études, il n'y avait pas de matière philosophie. Donc, c'est la France, je pense, est un des seuls pays au monde qui a philosophie, au moins pendant un an. Et donc nous, on n'a pas ça, donc je ne peux pas dire que j'étais éveillé à ça. Par contre, dans ma maison, il y avait beaucoup de livres. Mon père était plutôt lecteur, on va dire. Beaucoup de biographies, etc. Et ma mère adorait Agatha Christie. Voilà, les intrigues de...
Pourquoi ?
Donc, il y avait de la lecture dans la maison, mais moi, bon, je ne dirais pas que... Enfin, je lisais, mais pas immodérément. J'avais des amis, par exemple, qui lisaient Isaac Asimov quand ils avaient 13 ans. Moi, non, je n'étais pas dedans. Voilà. Et Balzac ou autre, encore moins. Ça n'existait pas pour nous. C'est plutôt, peut-être on va y arriver, mais en fait, le déclenchement d'un intérêt pour de la littérature ou de la philosophie, qu'aujourd'hui je considère un vrai support pour la pensée d'une profession intellectuelle comme architecture, c'était justement à l'école d'architecture. Voilà, c'est vers 19 ans, 20 ans, où je me suis trouvé dans un milieu où j'étais tout d'un coup éveillé. Ou mis au courant de l'existence d'un certain nombre de références, Kafka, Michel Foucault, bon, tout ce qu'on veut. C'était à l'école d'architecture, en fait, et peut-être un peu plus largement à l'université, parce que les écoles d'archi outre-Atlantique sont pour la plupart dans des universités. C'était ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, qu'il y avait des textes qui avaient une portée au-delà de simple divertissement ou leçon de vie, des choses comme ça.
Donc c'est avec les études d'architecture que vous êtes encore plus parti, vous êtes encore plus intéressé à la lecture et l'écriture au final.
Voilà, on va dire lecture pour construire l'intellect. Oui, c'était à l'école d'architecture. Je pense que pendant le collège et lycée, je lisais pour les divertissements. C'est pour ça que j'évoque Le Seigneur des Anneaux, parce que même si on peut le regarder d'un point de vue littéraire, c'est quand même assez engageant. Voilà, et c'est pas trop... Bon, c'est un peu long, mais c'est assez engageant. De toute façon, tout le monde saute par les longs poèmes. Personne ne les lit quand ils sont ados. C'est plus tard peut-être qu'on les lit. Et sur l'écriture, parce qu'il y avait aussi cette question, je ne dirais pas que j'écrivais beaucoup. Je le faisais quand je devais, je dirais, mais je n'avais pas un penchant pour la rédaction. Et d'ailleurs, j'ai souvenir quand j'étais ce qu'on appelle le cégep au Québec, c'est un genre de ça s'appelle collège, c'est entre le lycée et l'université, c'est 2 ans. J'étais en sciences pures et appliquées, donc chimie, physique, maths, mais on suivait quand même des cours dans les humanités, les lettres. Et je me rappelle pour un cours de poésie que j'avais, j'ai fait le dossier lavé du rendu, qui est assez malheureusement une habitude que j'ai pu avoir. J'ai écrit une vingtaine de poèmes lavés du rendu, ce qui est complètement l'inverse de l'approche pédagogique du prof, où il fallait, un peu comme on fait en projet d'architecture, développer son travail, approfondir, revenir dessus. Donc, je dirais que je n'étais pas un rédacteur très... qu'on voudrait valoriser comme un exemple quand j'étais ado. À nouveau, c'est à l'école d'archi qui était franchement pour moi un choc de reconnaissance dans un milieu quand j'ai commencé les études, parce que j'avais commencé à perdre l'intérêt pour les études avant d'entrer à l'école d'archi. Et il y a eu un choc, que ce soit le projet, que ce soit le corpus d'histoire, lire l'histoire de l'architecture, ou devoir rédiger des rapports sur un sujet pour l'histoire de l'architecture, par exemple. C'est là où j'ai découvert que c'était quelque chose que j'appréciais.
Et donc, une fois diplômé de l'Université de Montréal, vous êtes ensuite parti à Paris, où vous avez pratiqué l'architecture en tant que maître d'œuvre, pour ensuite décider de repasser et de retraverser l'Atlantique, pour faire ensuite un master puis un doctorat à la Rice University à Houston, aux États-Unis. Et donc, c'est suite à ce master et ce doctorat que vous êtes dirigé vers une activité d'enseignant-chercheur comme vous l'avez aujourd'hui. Donc, par exemple, dans un entretien que vous avez effectué avec le Forum Urbain. Donc, le Forum Urbain, c'est une plateforme et un forum de discussion qui a été créé par Sciences Po Bordeaux et qui a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la ville aux sciences humaines et sociales. Donc, vous indiquez, par exemple, je cite, qu'en architecture, on ne peut pas simplement dessiner de beaux bâtiments pour des gens riches. On a aussi besoin de poser des questions,
de se constituer des savoirs et une culture politique au service de l'action. Quelle est, selon vous, la place de l'écriture et de la lecture dans la composition de cette culture politique dont vous parlez juste avant, et des remises en question qui sont, selon vous, nécessaires pour un étudiant en architecture?
La réponse est grande. La place de l'écriture et de la lecture est grande pour la construction d'un point de vue, d'une posture, d'un esprit critique. C'est absolument fondamental. Ce n'est pas la seule chose. Je pense que c'est important d'être dans une communauté de débat où il y a des échanges sur la base de ce qu'on lit, de ce qu'on écrit, mais pas seulement. Ça peut aussi être sur la base de ce qu'on voit dans des projets, en architecture spécifiquement. Donc on ne peut pas réduire tout à ça, mais je pense qu'il est très difficile de construire un regard on va dire critique et un peu objectif sur le monde si on n'a pas des moments de lecture où on est en contact avec des pensées construites qui argumentent les choses, qui utilisent de la rhétorique pour exposer des idées et des points de vue. C'est difficile de construire soi-même un point de vue. Il faut aussi s'exposer à des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et oui. Une bonne manière de faire ça, c'est de lire. Parce que dans nos entourages, et surtout aujourd'hui, dire ce que tout le monde dit, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance, via les algorithmes, etc., à créer des bulles. C'est pas total, parce que moi, sur les réseaux sociaux, parfois, je rencontre des pensées avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Donc, ça arrive. Mais je vais pas forcément continuer à fréquenter ces lieux. Donc, il y a des créations de bulles. Je pense qu'il est important de se mettre un peu au défi de penser contraire à ce qu'on pense pour justement aiguiser nos arguments, comprendre mieux comment construire des arguments qui tiennent la route. Donc je pense que c'est absolument fondamental. C'est aussi la lecture une manière de apprendre des choses sur le monde. C'est une manière assez efficace, que ce soit le journal, que ce soit des textes issus de recherche, que ce soit des manifestes, des documents sciemment, qui prennent sciemment des partis pris, qui sont des partis pris. Tout est bon, il faut savoir mettre chaque chose à sa place.
D'accord, oui, donc pour vous, c'est bien à la fois une remise en question, donc c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ce qu'on pense, et donc pouvoir chercher l'argument contraire, enfin contraire ou du moins différent de celui que l'on a, mais aussi en même temps prendre toute une culture que vous jugez donc politique, cette culture, donc c'est-à-dire très large à la fois, qui concerne différents domaines, et donc d'où le fait que l'architecte a besoin d'être un sachant de plusieurs domaines.
Oui, c'est une question qui peut être un peu dangereuse. Et je ne veux pas essentialiser ou laisser entendre qu'il y a un modèle d'architecte.
Oui.
Moi, je pense, et vous avez fait référence à cet entretien avec le Forum Urbain, je pense que puisque l'architecture est une activité et un phénomène qu'on rencontre tous les jours, qui a une dimension fondamentalement publique et donc collective et qui structure les rapports entre les gens. Je pense qu'il y a des enjeux politiques très sérieux dans l'architecture. Et je pense que une architecte devrait au moins être conscient que son action s'inscrit dans ce contexte et que rien n'est neutre. Aucune décision, aucun projet n'est neutre dans ce contexte. Donc, moi je préférerais voir des architectes, je pense qu'on est tous d'accord, fait. Après, il y a peut-être différents points de vue précis, mais je pense que c'est intéressant d'amener, en tout cas les étudiants en architecture, de comprendre cela, et donc de construire, de s'intéresser à des informations, des idées, des faits qui leur permettre de comprendre le monde, comment il fonctionne, et donc d'agir dans le monde avec un minimum et préférablement plus d'orientation, voilà, de parti pris. Et je pense que donc la lecture est une manière efficace, que ce soit, comme j'ai dit, de journaux, mais de bons journaux, de textes plus constitués, voilà, sur la théorie de l'architecture, en philosophie, sur des phénomènes société, donc à travers la sociologie. Effectivement, l'architecture est en contact avec beaucoup de disciplines. Donc je pense que c'est préférable d'amener les étudiants à être un peu conscients de ça et d'avoir un goût. Et on va y arriver peut-être, mais la rédaction, l'écriture, et où on est un peu plus face à soi-même, c'est un exercice assez éprouvant. On va peut-être en parler des différences entre écrire et faire du projet en architecture, parce que je pense qu'il y a des différences dans l'état d'esprit l'épreuve que ça représente. C'est des épreuves très intellectuelles, je pense, avec quelques différences. Mais écrire, c'est un exercice qui permet justement de traiter, de process, comme on dit en anglais, de traiter ce à quoi nous sommes exposés et d'essayer d'avoir des idées claires.
Et donc justement, dans votre atelier de projet, donc vous êtes enseignant de TPCAU, qui est donc la matière principale, c'est l'atelier de projet, donc c'est-à-dire que les étudiants en architecture conçoivent un bâtiment très souvent, mais ça peut être plus qu'un bâtiment. Quelle est la place de l'écriture dans votre atelier de projet que vous mettez en place en master?
Alors la place de la lecture est je dirais un peu plus que la moyenne, en tout cas de ce que j'ai pu constater dans mon expérience d'étudiant et ensuite d'enseignant dans différentes écoles et dans différentes équipes. C'est un peu plus que la moyenne, sa place, et la rédaction aussi, peut-être un peu plus que la moyenne, avec une certaine idée en tête. Et à chaque semestre, je suis frustré qu'on n'a pas pu faire plus, voilà, que je n'ai pas eu plus de temps pour travailler avec les étudiants sur des petits textes. Hein, en fait, la base que j'utilise, c'est 300 mots. C'est pas beaucoup, ça, c'est 2000 signes. Mais en fait, l'idée, c'est de travailler sur plusieurs semaines, voire tout au long du semestre, en parallèle du projet, sur un petit texte qui commence à 300 mots et qui finit à 300 mots, mais à la fin, sera complètement différent. Mais le retravail sur ce texte est une manière de construire les idées, dans un premier temps, d'exprimer, de trouver qu'est-ce qui intéresse l'étudiant par rapport au sujet précis de l'atelier. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est plutôt problématiser, trouver, ah ben oui, mais quel est en fait le grain de sable qui dérange et qui va permettre de dire, bon, donc mon projet va aborder ce sujet précisément. Donc le texte permet d'avoir une problématisation. Après, il y a une phase où on essaie, bon, moi ce que j'appelle ça, de trouver les nuggets, les petites pépites, voilà, dans un texte court comme ça de quelques, enfin c'est dans deux paragraphes quoi, dans un texte comme ça, c'est bien d'avoir des moments où le lecteur s'arrête, il a lu une phrase qui est peut-être courte mais qui dit tout. C'est un peu le punch, quoi. Donc, on essaie de trouver ça pour que chaque étudiant ait un texte qui expose quelques idées et qui dit au milieu du texte, par exemple, et bam! Et là, tout lecteur comprend, et ce qui suit jusqu'à la fin, c'est un peu, on roule sur du velours, parce que voilà, on peut continuer à développer une idée, mais on a marqué un coup, voilà, avec, et ça c'est de l'écriture dans le sens littéraire, c'est trouver la formule, donc c'est un travail sur la forme, mais aussi sur le fond, c'est avoir mis en place les bons concepts, les bons mots, les bons références pour que quand on lit cette pépite, qui peut être très courte hein, comme phrase, les significations sont en place pour que la forme de cette phrase ait son effet. Et ça prend du temps. Et bon, et donc l'idée c'est que vers la fin, il y a un projet d'architecture et juste avant de le regarder, on peut lire un petit texte qui ne prend pas beaucoup de temps à lire, celui qui vient découvrir le projet, qu'il ne connaît pas. Et voilà, ils lisent le texte et ils comprennent quel est le contexte, quel est le point de vue, quels sont les enjeux, quels sont les choix effectué. Et quand on regarde le projet, on a ce contexte. Donc ça, c'est le travail d'écriture. Mais pour arriver là aussi, on doit lire. Donc pour revenir à la question de la lecture, pour chaque thématique, donc par exemple, depuis 2 ans, je travaille dans cet atelier, qui est un atelier, il faut dire, assez avancé. C'est un atelier en 5e année. Donc c'est un atelier qui a lieu juste avant le projet de fin d'études, qui est un projet très en autonomie. Enfin, assez autonome. Donc, dans cet atelier de projet en 5e année, depuis 2 ans, on travaille sur la question du rapport entre l'humain et les autres que humains, c'est-à-dire ce qu'on appelle les animaux, mais en problématisant déjà cette division conceptuelle, voilà, oui. Humain-animal. Hein, c'est une division conceptuelle qui est une construction historique et oui. Qui a un certain nombre d'effets, des effets sur la façon dont on vit, sur nos valeurs, etc. Et justement, pour aborder à la base cette construction qu'on peut problématiser, il faut lire Bruno Latour, par exemple, qui a mis, qui a problématisé ce genre de division entre humains et non-humains. Il faut lire Uxküll, voilà, c'est un Estonien germanique du début du XXe siècle qui a travaillé sur la question des animaux, hein, il s'intéressait aux animaux, il a développé l'idée du Umwelt, c'est-à-dire l'espace de vie ou le milieu de vie de chaque être vivant, notamment les animaux, des insectes, des vers de terre, des ragondins, oui, on peut dire. Voilà. Voilà, donc il faut lire un peu Uxküll. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut lire qui nourrissent ces réflexions et qui construisent donc, qui donnent de la matière aux étudiants pour pouvoir poser un point de vue et aborder la question de l'architecture du futur. Qui va peut-être correspondre à un autre rapport entre les êtres humains et les animaux qui ne sont pas des êtres humains. Voilà. Pour imaginer cette architecture-là, il faut déjà avoir une certaine... Il faut déconstruire ces idées et pour ces a priori de notre culture. Et pour ce faire, il faut se confronter notamment de la philosophie, mais aussi de l'histoire. Il y a des historiens qui font un travail extraordinaire sur la place de l'animal dans la ville. On apprend en lisant un texte très court, on peut apprendre que à Paris, c'est là où je vais me tromper un peu dans les faits, mais à Paris, jusqu'au milieu des, on va dire la Grande Guerre, oui. Et dans la foulée des années 20, et donc l'introduction des véhicules motorisés, etc., il y avait une population de chevaux à Paris qui est ahurissant. C'était des dizaines de milliers de chevaux qui habitaient Paris. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelques centaines. Oui. C'est hallucinant. Et on peut apprendre ce genre de choses. Oui. Et d'ailleurs, il y avait toute une économie autour des déchets, des déjections des chevaux. Oui. Il y avait un écosystème. C'est intéressant aujourd'hui, quand on parle beaucoup de cycles courts, tout ce que les chevaux produisaient comme... excréments. Il y avait une économie autour de ça, de récupérer, de transporter vers des maraîchers qui étaient dans les faubourgs ou un peu loin, et qui produisaient de la nourriture, qui ensuite nourrissaient la ville. Et donc, et on apprend ça que c'est il y a 100 ans. C'est qu'il y a 100 ans qu'il y avait ça. Et donc, lire permet, c'est un peu bête ce que je dis, mais quand on aborde un sujet comme ça, on peut rassembler un certain nombre de textes, et pendant 3 semaines au début d'un semestre, lire, discuter, etc. Et ça permet d'aborder le projet de manière complètement différente, avec un monde de référence assez déstabilisante, mais qui est, je trouve, très productrice.
Et vos étudiants, donc, le lisent, parce que vous les conseillez, et vous pensez qu'ils les lisent ?
Oui, parce qu'en fait, dans l'atelier de projet, on a des séances qui sont type séminaire.
D'accord.
Ils ont lu, on se met autour d'une table et on discute. Je dis, qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce qu'il y a une phrase dedans qui vous a particulièrement marqué ? Quel est l'argument ? Et on a des discussions comme ça. Alors, ça marche suivant. Cette année, j'avais un groupe très international. et donc, au lieu de fonctionner en français, on a beaucoup fonctionné en anglais. Donc, du coup, la bibliographie que j'avais préparée n'était pas adaptée. Et donc, ça n'a pas marché aussi bien que j'aurais voulu, cette partie de l'atelier. Mais l'année dernière, ça marchait très bien. J'avais moins d'étudiants, mais ça a très bien marché. sur les animaux. D'autres années, c'était sur d'autres sujets, sur la question de l'utopie. Bon, chaque étudiant devait lire un des textes utopiques de référence dans l'histoire, commençant avec Thomas More, mais il y en a beaucoup, hein. Campanella, Fourier, il fallait que chaque étudiant s'approprie un de ces écrits, ces textes, pour pouvoir le restituer aux autres et travailler avec pour le projet. Donc ça marche quand les conditions sont bonnes.
Et est-ce que vous avez par exemple un souvenir d'un étudiant qui a utilisé donc à la fois la lecture pour comprendre le sujet et comprendre la problématique du projet, et aussi l'écriture pour restituer son projet? Est-ce que vous vous rappelez d'un étudiant qui a utilisé l'écriture et la lecture d'une manière assez singulière qui vous a marqué?
Ici à Bordeaux, je dirais non. Peut-être parce que il y a une culture d'école, voilà. Mais quand j'ai commencé à enseigner ce qu'on appelle un assistant, teaching assistant, quand j'étais doctorant, ça c'était donc à Rice University à Houston, à l'école d'architecture de Rice, où donc le prof que j'assistais, il était aussi, on va dire, quelqu'un qui s'intéressait à la théorie, à la littérature, et l'atelier de projet, c'était pas le premier, mais le deuxième où j'ai enseigné, j'avais je sais pas, 29 ans, on avait de la lecture, et il y avait de l'écriture, il y avait une étudiante qui a beaucoup écrit, et elle, je me rappelle qu'elle avait un talent particulier pour l'écriture, et d'ailleurs, c'est pas son activité professionnelle, mais elle fait des BD. Et c'est peut-être par hasard. Et son projet de diplôme, d'ailleurs, je me rappelle, c'était un BD sur la question de la maison, non comme lieu de sécurité, mais comme lieu de difficulté. On touche à des sujets assez sensibles, des abus physiques, sexuels. Donc elle a fait un travail sur un projet de fin d'études sur la maison. Et la forme que ça a pris était un BD, donc c'était une mise en forme à la fois visuelle, spatiale et récit.
Et oui.
Voilà, récit avec du texte. Ça m'a beaucoup marqué, tant sur le fond, le sujet, que sur la forme.
Et c'est donc la fin de cette interview de Kent Fitzsimons.
Nous n'avons jamais été modernes, de Bruno Latour, sociologue et philosophe français décédé l'an dernier. Quatrième de couverture. Pollution de rivière, embryons congelés, virus du sida, trous d'ozone, robots à capteurs. Ces objets étranges qui envahissent notre monde révèlent-ils de la nature ou de la culture? Comment les comprendre? Jusqu'ici, les choses étaient simples. Aux scientifiques, la gestion de la nature, aux politiques, celle de la société. Mais ce traditionnel partage des tâches devient de plus en plus impuissant à rendre compte de la prolifération des hybrides. D'où le sentiment d'effroi qu'ils procurent, et que ne parviennent pas à apaiser les philosophes contemporains, qu'ils soient anti-modernes, post-modernes ou éthiciens. Et si nous avions fait fausse route? En fait, notre société moderne n'a jamais fonctionné conformément au grand partage qui fonde son système de représentation du monde, celui qui oppose radicalement la nature d'un côté, la culture de l'autre. Dans la pratique, en effet, les modernes n'ont cessé de créer des objets hybrides qui révèlent de l'un comme de l'autre et qu'ils se refusent à penser. Nous n'avons donc jamais été vraiment modernes. Et c'est ce paradigme fondateur qu'il faut nous remettre en cause aujourd'hui pour comprendre notre monde.
Medina Telfen, Bordeaux. Campus Bordeaux.